Tracer la route, sans se soucier du mal de crâne, des larmes de feu, des mains d'enfant qui grattaient à l'intérieur de son ventre, s'éloigner le plus vite possible de cet endroit frappé du sceau de la mort. Lucie n'avait ni mangé ni bu, seulement vomi. Son corps fonctionnait à l'adrénaline, sur les nerfs. Dépassant largement les vitesses autorisées, elle remontait les flots hurlants des lampadaires d'autoroute en direction du nord. Et si elle se fracassait sur les rambardes, tant pis. Rouler jusqu'à l'épuisement, enchaîner les kilomètres d'asphalte pour ne pas penser, ne plus jamais penser. Malgré tout, les images pleuvaient et inondaient sa mémoire. Le corps trop petit, en parfaite contradiction avec la table d'autopsie démesurée. L'éclat rieur des outils sous la lampe cyanalytique. Et ne pas savoir. Ne pas être fichu de reconnaître l'une de ses propres filles. Ces fontaines de vie qu'elle avait portées, accompagnées pendant 8 ans, le jour, la nuit, durant les maladies et les carnavals scolaires, celles dont elle connaissait chaque trait, le moindre détail caché, jusqu'à la plus infime variation de leur visage. Le sang de son sang. Il allait falloir patienter. Les secondes allaient désormais s'écouler comme un lent poison dans ses veines, avec au bout du chemin l'horreur. Soit l'une des jumelles était morte, soit elle tremblait encore entre les mains de son bourreau. Le pire ou le pire du pire. Quel monstre les avait enlevés ? Pourquoi ? Clara et Juliette avait disparu en allant chercher des glaces sur la plage des Sables d'Olonne. Il avait fallu moins d'une minute pour qu'elles s'évaporent dans la foule. Les avait-on kidnappées par un sinistre hasard? Les avait-on surveillées? Dans quel but? Lucie ne cessait d'envisager tous les scénarios, toutes les déclinaisons possibles d'histoires sordides jusqu'à s'en rendre malade. Et un scénario était remplacé par un autre, pire encore. La bobine d'horreur n'en finissait plus. Ce déferlement de ténèbres à cause de Franck Charcot. Elle lui en voulait à mort, et jamais, plus jamais, elle ne souhaitait le revoir. Il valait mieux ainsi. Elle se sentait capable de lui sauter à la gorge et de le tuer. Qu'allaient être les prochains jours, dans l'attente des analyses, de l'enquête, des recherches du meurtrier? Quel démon avait pu s'acharner de la sorte sur cet enfant? Où qu'il se terre, Lucie le traquerait jusqu'au bout de ses forces. Pas Clara, ni Juliette. Ce n'est pas Clara, ni Juliette que j'ai vue ce soir. C'était autre chose. Une timide lueur tremblait par la fenêtre de son appartement, au cœur du quartier étudiant de Lille. Un endroit sympa, d'ordinaire, lourd de vie, de conversation, de chaleur humaine. Ici, le boulevard était désert. Les feux tricolores crachaient leur vert, rouge, orange, dans une monotonie de fin du monde. Lucie avait peur de rentrer chez elle. Ces 4 murs sans Clara et Juliette à ses côtés, c'était plus atroce qu'un sarcophage. Sa mère, Marie Henbel, enchaînait les tasses de café et les médicaments pour rester consciente. Il était 3 heures du matin et la dame aux mèches blondes décolorées, à l'énergie d'ordinaire infaillible, avait pris 10 ans en l'espace de quelques jours. C'est elle qui avait élevé les filles depuis leur naissance à cause du métier de leur mère. C'est elle qui avait changé les couches, préparé les biberons, veillé à leur chevet quand les maladies frappaient ou quand les planques dans les bagnoles emportaient Lucie dans la nuit. Et aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui... Lucie resta immobile dans l'embrasure, les mâchoires serrées face à sa mère. Si seulement elle avait pu fuir loin, loin d'ici, sans jamais se retourner. marcher sur une grande langue de sable qui s'enfoncerait au milieu de l'océan. Elle pensait déjà au lendemain, à la brûlure de chaque réveil, si elle avait la chance de dormir, au lit vide dans la chambre rose et verte, à ses peluches en attente de câlins, l'éléphant de Juliette, gagné aux grues de la fête foraine, l'hippopotame que Clara aimait tant serrer contre sa poitrine. Tous ces souvenirs devenus déjà des plaies béantes. Parce que Lucie ne bougeait plus, sa mère vint l'enlacer, respira longuement dans sa nuque sans lâcher un mot. Que dire dans ces moments-là? Qu'on allait finir par retrouver les jumelles vivantes et que tout allait rentrer dans l'ordre. Un flic, et par conséquent une mère de flic, savait mieux que quiconque que, après 48 heures, les chances de retrouver un enfant en vie s'approchaient du point zéro. La réalité, les statistiques, étaient ainsi faites. Marie remarqua le sachet hermétique et transparent que sa fille serrait dans son poing blanc. Elle comprit sur le champ. Le kit, empaqueté, contenait un masque, un tube transparent, une paire de gants en latex, une fiche cartonnée et trois écouvillons, ces espèces de coton-tiges utilisées pour prélever de l'ADN. Lucie murmura dans le dos de sa mère. Comment je vais faire, maman? Comment je vais m'en sortir? Marie-Anne Belle s'assit sur le canapé, épuisée. Grande, fine, elle était une femme qui, à presque 60 ans, avait gardé toute sa séduction. Cette nuit-là, l'ensemble de son organisme criait à l'aide. Mais elle tenait. Tenait. Je serai là. Je serai toujours là. Lucie acquiesça en reniflant. L'enfant, sur la table d'autopsie. Je l'ai maudite, maman. Je l'ai maudite de me laisser dans le doute. Ce n'est pas mon enfant. Au fond de moi, je sais que ce n'est pas mon enfant. Comment l'une de mes petites filles aurait pu se retrouver là-dessus? Comment on aurait pu lui faire du mal? C'est seulement pas possible. Je sais, ce n'est pas possible. Je suis sûr que ce monstre est resté sur place quand les flammes se sont déployées. Il a regardé. Lucie. Peut-être qu'ils vont le coincer très vite. Peut-être qu'il retient d'autres fillettes et que mes enfants... Marie répondit avec de la résignation dans la voix, signe, selon Lucie, d'une fatalité implacable. Peut-être, Lucie, peut-être. Le flic ne trouva plus la force de parler. Dans la semi-obscurité, elle partit se laver les mains et déchira le sachet fourni par le laboratoire de police scientifique. Chacun de ses gestes pesait une tonne et revenait à admettre l'impossible. Une fois les gants enfilés, elle revint dans le salon. Elle échangea un regard avec sa mère qui se recula, les doigts tremblants sur ses lèvres. En ses qualités d'officier de police judiciaire, Lucie glissa avec précaution l'écouvillon dans sa propre bouche, le remua délicatement afin que son extrémité en mousse blanche s'imprègne de salive. Elle frotta son visage en larmes contre son épaule. Rien ne devait contaminer ses mouvements, pas même sa tristesse de mère. Elle savait que son acte était odieux, irréel. Elle allait chercher dans son ADN de génitrice les preuves que l'une de ses petites filles était peut-être morte. Lucie appliqua ensuite le bout de l'écouvillon à l'endroit indiqué sur une carte rose, la carte FTA, jusqu'à l'imprégner de son ADN. La rangea au fond d'un sachet, puis ferma précautionneusement avec la grosse bande autocollante rouge, scellée judiciaire, ne pas ouvrir. Le prélèvement partirait dès le lendemain matin à la première heure pour un laboratoire privé, où il serait empilé avec des centaines d'autres. Son avenir, leur avenir, reposait sur une vulgaire molécule qu'elle ne voyait même pas. Une succession de millions de lettres, A, T, G, C, qui constituait une empreinte génétique unique, sauf dans le cas de jumeaux monozygotes, et qui, tant de fois, avait orienté les enquêtes afin de confondre des suspects. Malgré ses croyances, ses espoirs, Lucie ne put s'empêcher de penser qu'il faudrait peut-être, bientôt, vivre dans ces petites étoiles. Si cela devait arriver, comment allait-elle pouvoir continuer à exister ?